ne cherchons surtout pas dans l'Apocalypse des recettes. C'est pas un livre de recettes. Et on est tellement pris par les recettes aujourd'hui. Les livres de cuisine, savoir faire des gâteaux, savoir faire des plats astucieux. Ah bien non, la police, c'est pas ça. C'est pour ça que c'est très décevant. Pour celui qui cherche l'efficacité, c'est terriblement décevant. La théologie de l'Église est une sagesse qui réclame la contemplation. L'Apocalypse purifie notre regard de foi sur la conduite du Saint-Esprit sur nous et sur l'Église. On est souvent si critique sur la conduite de l'Esprit-Saint. C'est vrai, on ne comprend pas. Pourquoi ? Parce que le Saint-Esprit agit d'en haut et de l'intérieur et nous, nous regardons tout. Du premier étage, du rez-de-chaussée ou de la cave. Nous n'avons pas ce regard septiple, septiforme. C'est ça la sagesse, elle est septiforme. La sagesse théologique, sous la conduite de l'Esprit-Saint. Et nous voyons qu'un aspect, souvent, on abstrait. Et on croit que c'est le tout. Vous allez vous donner l'exemple tout bête de ce professeur de philosophie spécialiste de la sexualité des araignées. Il avait dans sa cellule, mais c'est vrai ce que je vous dis, c'est pas de la blague. Il avait dans sa cellule tous les livres qui étaient parus sur la sexualité des araignées. Mais ça en faisait quand même pas mal. Alors on redécouvre cette unique cellule, un monastère. Vous voyez quelle dégradation, hein, de la vie chrétienne. Des moines qui cherchaient ça. Mais ça, là on voit tout de suite, hein. Et on fait ça constamment. Alors je dis pas par rapport à la sexualité des araignées, ça c'est très particulier, mais on fait ça par rapport à autre chose. Oui, on voit l'efficacité. On aurait des tas d'exemples, des tas d'exemples. À voir que de fait, les sept sauts, faut y réfléchir beaucoup, beaucoup. Prendre cette lumière sur l'Église, la conduite de l'Esprit-Saint sur l'Église, septiforme, pour nous, pour chacun d'entre nous, et pour l'Église, les sept Églises. Et c'est quand même le livre 7, hein, chiffre 7, dans l'Apocalypse, ça revient tout le temps, chiffre 7. Et le chiffre 7, c'est le chiffre de la personne humaine, religieuse. Cette dimension. Vous savez, quand j'ai cherché au plein de vue philosophique la structure de la personne humaine, je n'ai pas pensé du tout au chiffre 7. Hein, parce que je ne suis pas pythagoricien. Mais on aboutit à 7. Alors on est très étonné. Et on voit donc qu'il y a dans l'homme, si on le regarde dans sa totalité, une attente mystérieuse à l'aigle, à l'Esprit-Saint, au grand aigle. Et ça, c'est beau. Hein, c'est beau de voir que toute l'action de l'Esprit-Saint en nous est une action artistique, mais d'un art d'amour, et qui développe en nous tout ce qu'il y a de grand. Avec petit examen de conscience dans la lumière de l'Apocalypse. C'est pas le petit examen de conscience banal, psychologique, sur les commandements de Dieu. Premier commandement, rien. Deuxième commandement, rien. Troisième. Non, c'est pas ça du tout. que nous sommes des êtres qui vivons du cheval blanc? Est-ce que nous sommes des êtres qui acceptons en nous le cheval verdâtre? Pas drôle. Est-ce que nous sommes des êtres qui acceptons de dépasser ce que notre mode humain voudrait construire de parfait? On identifie la sainteté chrétienne à un édifice parfait. Est-ce que nous acceptons et restons fidèles au milieu des tornades, où le soleil est caché, la lune est comme du sang, et les étoiles dégringolent sur la terre? Avant, il n'y a pas si longtemps, un bon chrétien pouvait demander à son curé: qu'est-ce que je dois faire? Et le curé répondait avec un sens de l'Église au début du siècle. C'était encore comme ça. Maintenant, on ne sait plus ce qui va vous sortir. Alors, j'ai des exemples qui moi, me terribles. Encore récemment, je ne dis pas ce que c'est, mais encore récemment. Quelqu'un qui extérieurement dans sa vie semblait très 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 profondément catholique, et qui demande, qui exprès de son vivant, fait une cassette vidéo pour qu'elle soit publiée après sa mort. Et là, il dit des choses qui scandalisent la foi chrétienne. C'est quand même affolant. Donc, vous voyez, les ébranlements aujourd'hui vont tellement loin qu'on ne sait plus, quelquefois, parce que si on invoque l'Esprit Saint donnera toujours la lumière. Saint Thomas disait: un chrétien serait seul dans le désert et ne saurait plus la route qu'il doit prendre s'il prie, Dieu envoie un ange pour l'éclairer. Évidemment, on ne le voit pas toujours. Il envoie un ange pour éclairer. Ça, c'est vrai. Si on prie, Dieu ne nous abandonne pas. Et il sait qu'on vit cette tourmente. Où tout est secoué. Vous savez, les bombardements de la dernière guerre. Une ville qu'on connaissait bien, après un bombardement, on y passe, on n'y reconnaît plus que de temps en temps. Tout est bousculé. Et c'est curieux. Les guerres et la technique des guerres nous aident à comprendre quelquefois les bombardements diaboliques. On est passé d'une guerre, je dirais, humaine, avec un mode humain. On est passé à une guerre qui n'est plus humaine, qui est au niveau de la technique de destruction. Et ça va très loin, puisque maintenant l'homme peut détruire l'univers. Il y a un fou qui presserait sur un bouton, ce serait déclenché en 10 minutes. Je crois qu'Hitler aurait eu le pouvoir de faire ça, il l'aurait fait, plutôt que de se voir battu. L'orgueil fait qu'on n'accepte pas la défaite. Et quand on n'accepte pas la défaite, on veut que tout le monde soit battu et disparaisse. Je crois qu'on vit ça, et c'est bien ce qui nous est montré, hein, d'une certaine manière. Quand on essaie de comprendre le sixième sceau, ça nous est montré pour que on puisse comprendre que cela, oui, c'est un climat que Dieu nous fait vivre. Je crois qu'on n'a jamais vécu autant le sixième sceau que maintenant. vécu. On ne le vit jamais avec. On n'a jamais vécu avec autant d'intensité. Le Saint-Père, dans sa première encyclique, Redemptorum Unis, nous avertit. Il nous avertit. Le Saint-Père, dans sa première arrivée à Notre-Dame, à Paris, nous avertit. Avertit les évêques. Et on n'ose plus avertir les gens. On n'ose plus. Alors continuons rapidement, puisque plus on s'approche du terme, plus on voit qu'il faut aller vite. Et je crois que les trompettes, c'est très important et très intéressant. Mais alors, c'est rude, hein ? C'est pour ça que j'aime mieux le faire le matin que le soir. Je m'arrêterai à ce qui me semble le plus important. Parce que l'exécution, c'est jamais clair. C'est vrai. C'est la philosophie moderne qui veut saisir l'exécution. Le vécu. Or, l'exécution, c'est jamais clair. On ne sait pas d'où ça vient. Bon, vous sortez d'ici avec, quand il y a une grande tornade et un grand vent, il y a une tuile qui vous tombe sur la tête. Ça peut arriver. Alors, il y a la réaction des amis de Job. Ah, c'est bien fait. Ça t'apprendra d'aller si vite. Tu auras maintenant 15 jours d'hôpital. Ça te fera du bien. Il ne le dit pas tout haut, mais il le pense. Alors, donc, c'est le bon ange gardien qui vous donne une bonne claque. En se servant d'une tuile. L'autre dira, c'est pas étonnant, hein. Le démon t'en veut. Tu as fait du bien. Il te poursuit. Alors, est-ce que la tuile est tombée naturellement sous l'effet du vent ? Est-ce que le démon était derrière ou un bon ange était derrière ? Tous les accidents, c'est comme ça. Le démon se sert des accidents, c'est le prince des accidents, le démon, vous savez. Oh là là. Il n'est pas un gendarme, le démon, mais le prince des accidents. Il les aime. Ah, il les aime. Il les compte. Il dit, c'est très bien, voyez, mon royaume commence, il y a tellement d'accidents sur le monde. Plus besoin de guerre, les accidents suffisent. Il en est très content. On oublie ça. Parce que la plupart des accidents, il y a un manque d'attention. Si on était très attentif, ça arriverait moins. On n'est pas attentif, on est fatigué. On a trop roulé. Alors les accidents arrivent le matin, au petit matin, très fatigué. Puis on rencontre des gens qui sont pressés. C'est l'excès de vitesse. C'est pas du Saint-Esprit, les excès de vitesse. La vitesse en soi, c'est bien, c'est agréable, c'est une qualité du mouvement, la vitesse. C'est merveilleux. On a une très bonne voiture, pas de gendarme, pas de radar, c'est... on peut y aller. Et je comprends, on est le siècle de la vitesse. Vous voyez le tam-tam qu'on a fait autour du TGV pour redresser le prestige de la France. On en est là. On se sert de la vitesse. On a un TGV qui va plus vite, qui est meilleur que celui du Japon, des Japonais. Alors que dans les voitures, on est battu. Et ainsi de suite, vous voyez, on le prestige va à ce niveau-là. On en est là. C'est pas très élevé comme prestige. C'est le prestige de l'efficacité, de la vitesse et tout ça. Et on est le siècle de la vitesse. Ça c'est très très net. À tel point qu'on ne peut plus penser. On ne pense plus. On va trop vite. C'est pour ça que la spiritualité, une certaine spiritualité des foyers de Notre-Dame, c'était de s'arrêter de s'asseoir. S'asseoir au moins un quart d'heure par jour pour ne rien faire et prier. C'était rien aucune peine de courir une demi-heure. Ça se fait très très bien. Courir une demi-heure, ça va très très bien. Une demi-heure de silence. Oh là 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 là. Ce qu'il faut du courage pour tenir bon. Alors on vit de cette agitation, voyez, de l'exécution. Alors regardons l'exécution. Vous allez voir tout de suite, posez-vous la question d'où ça vient, d'où ça vient. Le premier sonnat de la trompette et il y eut de la grêle. Alors on dit bien, c'est un fait. Il y eut de la grêle et du feu mêlés de sang qui furent jetés sur la terre. La grêle et du feu mêlés de sang. Et le tiers de la terre fut consumé. Voyez, le sang contaminé. Le tiers de la terre fut consumé. Et le tiers des arbres fut consumé. Et toute terre verte fut consumée. Donc on attaque la vie végétative à tous les niveaux. Et le deuxième, ça c'est fondamental, la vie végétative, la santé. Et ce qui est tout à fait fondamental dans la vie végétative, c'est le sang. L'Écriture dit que le sang c'est l'âme. Alors quand le sang est contaminé, c'est très grave. Ça, c'est l'attaque, vous voyez. Alors, elle est première, et elle est fondamentale. Elle est fondamentale. Le démon n'aime pas le sang humain. Il en a horreur, il veut le corrompre. Parce que le sang, c'est la vie. Il a horreur de la vie végétative. Dites-vous bien ça, mettez-vous ça dans la tête. Le démon a horreur de notre monde physique, de notre monde biologique, de la santé des hommes. Il veut la détruire par tous les moyens. Et son astuce, c'est de faire que les hommes eux-mêmes détruisent l'homme. Alors là, il est très heureux. Parce qu'il peut montrer à Dieu, tu vois, tu t'es trompé. Tu as fait ta confiance dans l'homme, regarde ce qu'il fait. Le deuxième ange sonna de la trompette et quelque chose comme une grande montagne brûlée par le feu fut jetée dans la mer. Une grande montagne brûlée par le feu. Et l'équilibre entre le chaud et le froid. On commence à s'éveiller en disant la terre s'échauffe. La mer devint du sang. Et le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vie mourut. Et le tiers des bateaux furent détruits. Mettez ça en parallèle et en opposition avec les sept jours de la création. Dans les sept jours de la création, c'est l'exécution du Dieu créateur. On ne parle pas du démon, parce que quand Dieu crée, il est seul. Ici, il s'agit du gouvernement divin, l'exécution du gouvernement divin. Parce que les déterminations du gouvernement, c'est les sceaux. Distinguez bien, mais ne séparez pas. Et le tiers et le troisième ange sonna de la trompette. Il tomba du ciel une grande étoile qui brûlait comme une torche. Et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile se dit Absinthe. On sait qu'on en a parlé il n'y a pas longtemps dans les journaux. C'est vrai. C'est quand même très curieux. Alors, il y a des rencontres comme ça. Il ne faut pas trop s'arrêter. L'Apocalypse est symbolique. Alors, elle se réalise. On dit oui, c'est la réalisation. Oui, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Ça reste symbolique. Et que quelque chose puisse s'identifier avec tel événement, c'est vrai. Ça éclaire tel événement. Mais ça demeure une lumière au-delà du temps. Et le tiers des eaux tourna en absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent de ses eaux parce qu'elle était devenue amère. Vous voyez tout le symbolisme caché derrière. Et le quatrième ange sonna de la trompette et le tiers du soleil fut frappé. C'est vraiment la reprise inverse de la création. Le démon a horreur de la création du monde physique, qui se termine par l'homme et la femme. Il a une haine vis-à-vis de la femme, plus que sur l'homme, selon l'écriture. Pourquoi ? Parce que la femme garde le bien, l'amour, plus que l'homme. L'homme aime jouer. Que ça se passe, que voulez-vous? La femme, la Samaritaine, cherche de l'eau en plein midi pendant que les hommes font la méridienne. Je me souviens. Quand j'étais. C'était. Je crois que j'ai prêché la dernière retraite aux aumôniers de l'armée française en Algérie. Téléphone à Fribourg, on cherche un dominicain qui prêchera l'évangile sans faire de politique. Alors, j'ai le premier mouvement, j'ai dit, mais non, écoutez, c'est pas pour moi. Après, je me suis dit, c'est peut-être trois retraites successives, sans aumônier militaire. C'était quelque chose, du reste. Alors, il y a eu certaines visions qui sont restées dans ma mémoire. Le soir, on voyait toutes les femmes revenir avec sur la tête le fruit des récoltes des olives. Il y avait avec ces femmes une femme âgée portant un vieil olivier qui était tombé, qui était à moitié pourri. Elle le portait sur elle comme une croix. C'était impressionnant. Il y avait pas loin de là la cafétéria où les hommes bavardaient toute la journée. Ils avaient leur fusil à côté d'eux. Ils bavardaient. Alors ça a été tellement fort pour moi, c'est plus fort. Comme j'étais en Dominicain, j'étais l'homme de prière. Je me suis adressé à l'homme de prière qui était avec eux. Je leur ai dit, comment expliquez-vous ce que je vois? Moi, ça me frappe. Comment expliquez-vous? Les hommes sont ici, ils prennent le café toute la journée, et les femmes vont travailler toute la journée. Alors, j'ai eu une réponse de cet homme de prière. La tradition. C'est pas la tradition de l'Esprit Saint, n'est-ce pas, vous comprenez, c'est autre chose. On fabrique des traditions. Et le nom de l'étoile se dit absinthe, et le tiers des eaux tournant en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent de ces eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Et le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, et le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, pour qu'ils s'obscurcissent d'un tiers, et que le jour ne brilla plus que d'un tiers, et la nuit pareillement. La destruction de l'ordre naturel des choses. Destruction progressive. Avec un ordre qui n'est pas l'ordre de la sagesse, qui est un anti-ordre, et qui fait que ça atteint jusqu'au soleil, jusqu'à la lune. Et je vis, et j'entendis un aigle volant au zénith dire d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur à ceux qui habitent sur la terre. » jamais sorti des sauterelles sur la Terre. Là, c'est le maximum d'un ordre symbolique anarchique. On ne fait pas mieux. Parce que c'est un ordre anarchique anti-sagesse. Ça vient pas de Dieu, ça vient du démon qui veut détruire. Alors, vous voyez ça, notez les symbolismes. À la suite, vous avez un ordre anti-sagesse, mais prodigieux. Ce serait intéressant de voir ça. Parce que là, il y a des secrets qui nous sont révélés. Des secrets qui ne sont pas de vrais secrets, puisque c'est des secrets du démon. Alors le vrai secret vient de l'amour. Il y a des anti-secrets. Il y a des secrets qui sont des parasites. Il y a des secrets qui nous... Mais qui nous, en empêchant de grandir. Ça, c'est les faux secrets. Les vrais secrets nous donnent un élan d'amour. Alors, voyez bien. Et il monta du puits une fumée, comme une fumée de grande fournaise. On voit des exemples de ça aujourd'hui. Hein. Des fumées de grande fournaise. Et le soleil et l'air furent enténébrés par la fumée du puits. Vous voyez, on peut regarder ça. Physiquement, on voit ça. Mais il faut le regarder dans la lumière de la sagesse divine. Alors tout est symbolique. Et la fumée, et de la fumée, sortirent des sauterelles sur la terre. Il leur fut donné un pouvoir, comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Vous passez des sauterelles aux scorpions. Il leur fut dit de ne pas nuire à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Parce que les hommes qui ont le sceau de Dieu sur leur front, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Le démon ne peut pas nuire à notre intelligence. Le démon ne peut pas nuire à notre volonté si nous sommes consacrés à Dieu par le sceau du baptême et si nous sommes fidèles à cette consécration. Le démon n'entre pas, il ne peut pas entrer dans notre intelligence. Le démon peut nuire à notre imagination, à notre sensibilité, à notre peau. Il peut nuire à ça, à notre sang. Il peut nuire à ça. Mais s'il ne peut pas atteindre directement notre intelligence, or, par le baptême, il y a le sceau de Dieu, le sceau du Christ sur notre intelligence, la foi. Le sceau de Dieu sur notre cœur, l'espérance et la charité. Et le démon ne peut rien contre les vertus théologales. C'est pour ça que nous devons très attentif à cette éducation des vertus théologales. Parce que vis-à-vis des vertus morales, vous savez, c'est jamais très très profond, hein, les vertus morales. Il y a une petite couche pour avoir l'air d'être vertueux. Mais entre quelqu'un qui n'est pas très vertueux et quelqu'un de vertueux, il n'y a pas beaucoup de différence pour le démon. Pour le démon, il n'y a pas beaucoup de différence. La grosse différence, c'est le passage du moral au théologal. Vis-à-vis du théologal, le démon ne peut rien si nous sommes fidèles et si nous voulons être fidèles. C'est ça qu'on doit se rappeler, hein. C'est ça l'important. Alors, vous savez, pas le sceau de Dieu sur le front. Le démon est le prince de tout ce qui est artificiel, de tout ce qui provient de l'art et de la technique. Là, il règne comme il veut vis-à-vis des choses de la nature, l'herbe, les arbres. Ah, on ne peut pas agir directement. C'est ce qui nous est montré, hein, ici. donner, non de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Et leur torture est comme la torture du scorpion quand il pique l'homme. Et en ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuit loin d'eux. C'est cette torture satanique. Et voici à quoi ressemblent les sauterelles. Elles étaient semblables à des chevaux prêts pour la guerre. Sur leur tête, il y avait comme des couronnes semblables à de l'or. Et leurs faces étaient comme des faces d'hommes. Et elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes. Et leurs dents étaient comme celles de lion. Et elles avaient des thorax comme les cuirasses de fer. Et toujours la pointe artificielle. Et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à nombreux chevaux courant à la guerre. Et elles ont des queues semblables à des scorpions et des dards, et dans leur queue et leur pouvoir de nuire aux hommes pendant 5 mois. Elles sont sur elles pour roi l'ange de l'abîme, et son nom en hébreu est Abdon, et en grec il a un nom Apollyon. Le premier malheur s'en est allé. Voici qu'il vient encore 2 malheurs après cela. Tu as de quoi te perdre la tête. Ce sont des rêves sataniques. Ce qui est important à tirer de tout ça, c'est pas, je crois, de regarder le détail. Ne regardez jamais le détail quand c'est du démon. Parce qu'à ce moment-là, vous perdez du temps. Quand il s'agit des choses de Dieu, on regarde le détail, parce que tous les détails conduisent à la finalité. Quand il s'agit du démon, il y a un désordre de Capharnaüm. On fourre tout dedans, et tout est fourré dedans. Il y a un désordre absolu. Alors, on ne sait plus où aller. Tout ça est fabrication humaine sous l'inspiration du démon. Alors on a fait des choses semblables, vous savez, au début de la guerre, quand il y avait les avions sirènes, et c'était pas drôle. C'est pas drôle quand on avait 400 ou 500 avions sur au-dessus qui piquaient avec ce bruit terrible et qui envoyaient là toutes les bombes incendiaires, tout ce qu'ils pouvaient. Avions sirènes. Alors on a fait des comparaisons. C'est juste et c'est pas juste du tout, vous comprenez, c'est pas ça du tout. Parce que, mais la technique humaine avançant, une technique de destruction qui peut aller très loin, n'est pas du Saint-Esprit. C'est l'homme qui cherche le pouvoir et qui ne cherche plus l'amour. Et c'est là la chose terrible, c'est que le démon arrive à faire que des hommes cherchent uniquement le pouvoir et que des nations cherchent uniquement le pouvoir. Il arrive à cette gloire, le pouvoir souverain. Alors, par la technique, et le démon, prince de la technique, il ne peut pas dominer l'homme dans son intelligence, sa volonté, sauf si l'homme devient complice. Si l'homme se livre au démon, dans des pactes, dans des alliances, autrement il ne peut pas. Il y a quelque chose que le démon ne pénètre pas en nous, en chacun d'entre nous, c'est notre intelligence. Il faudrait bien notre intelligence dans la foi, transformée par la foi. est supérieur au démon. Et là, il y a une supériorité qu'on doit garder. Thomas d'Aquin souligne que le mystère d'incarnation, c'est pour nous donner cette supériorité sur le démon. Le chrétien, comme chrétien, a une supériorité divine sur le démon. Donc il ne doit pas avoir peur. Si on est un homme de foi, un homme d'espérance et de charité, on n'a pas peur. Le démon veut faire tous les vacarmes possibles. Nous empêcher de dormir, c'est évident, par des cauchemars, par des rêves, tous les tintamarres possibles. Et la complicité des hommes. Mais il ne peut pas toucher à ce qu'il y a de plus. En nous, le Saint des Saints, notre vie théologale, notre vie contemplative. Sonna de la trompette et j'entendis une voix venant des quatre cornes de l'autel d'or qui est devant Dieu. Elle disait au sixième ange, celui qui avait la trompette, délie les quatre anges qui sont liés sur le fleuve, le grand fleuve Euphrate, et les quatre anges qui se tenaient prêts pour l'heure et le jour. Septième trompette, je la prends tout de suite, puisque durera pour les éternités d'éternité. Donc, les trompettes s'achèvent dans le ciel. Alors, c'est ça qui est très important à comprendre. Hein. C'est que tout ce tintamarre des trompettes, toute cette anarchie des trompettes, exprimée dans un symbolisme assez terrible, est portée par la prière des saints et s'achève dans le ciel. Le règne du démon est passager, ses jours sont comptés. Et c'est pour ça que plus on s'approche du terme, plus il est furieux, parce qu'il sait que ses jours sont comptés. Et le démon sait que c'est quand il est tout proche du terme qu'il doit éclater. Oui, c'est pour ça. C'est dans la dernière semaine que Judas dévoile ses jeux. C'est dans la dernière semaine que le démon dévoile ses jeux. Et qu'il se manifeste. Avant, il se cachait, maintenant, il ne se cache plus. L'abomination d'abomination jusqu'au temple, jusqu'à l'autel. Vous voyez, la septième trompette, c'est le ciel. La royauté du monde a passé à notre Seigneur. C'est pour ça que je vous dis, comme la croix du Christ est en apparence la victoire du démon, en réalité la victoire de l'amour. De même, l'Église, le cheminement de l'Église, du côté de son exécution, apparemment, c'est la victoire du démon. C'est l'anarchie totale, complète. Ce qu'on voit aujourd'hui. Et tout est faussé. Bien, l'économie moderne repose sur des mensonges. Elle est fallacieuse. Elle n'est plus finalisée par la famille. Elle n'est plus finalisée par le bien de l'homme. Elle est finalisée par la gloire et le pouvoir. On se sert de l'argent pour dominer non seulement son pays, mais le monde entier. Et du côté économique est arrivée une unité. Aucun pays aujourd'hui ne peut avoir son économie propre. On est dépendant de l'économie des autres. L'international au point de vue économique. Et le point de vue d'ocuménisme parfait au point de vue économique. C'est bien ce qui nous est montré. Sixième trompette. Et donc, apparemment, c'est la victoire du démon. Pas du tout. Septième trompette. La grande victoire du Christ. Quel mystère, hein, que Dieu se cache de cette manière. Le mystère de la croix. Le mystère de l'Église. Pourquoi ça? Pourquoi ? Parce que Dieu veut qu'on l'aime librement. Dieu ne veut pas qu'on l'aime parce qu'on est forcé de l'aimer par le pouvoir. Dieu accepte dans le mystère de son Fils la totale pauvreté, une pauvreté politique. Jésus a été déchu de son droit politique. Il a été traité comme un esclave qui n'avait aucun droit politique. Si le maître est comme ça, les disciples doivent l'être. Et c'est ce qu'on voit là, ce qui nous est montré. C'est là qu'on voit que si on quitte le mystère de la sagesse de la croix, on ne sait plus où aller. La seule lumière qui est donnée, c'est celle-là. pour nous, c'est de voir les exigences de ceux qui vivent le mystère de la sixième trompette. Je dis le mystère, je ne devrais pas dire le mystère de la sixième trompette. C'est le tintamarre de la sixième trompette. Les bruits, l'anarchie, les injustices, la tyrannie, le mensonge, c'est pas des mystères. C'est le démon déchaîné. Toute arme est bonne. Et on prend n'importe quoi. Le fait que ça détruit l'homme, le fait que ça le paralyse, le fait que ça l'empêche d'être lui-même et de ne plus avoir de liberté. Alors, on nous montre le secours de Dieu au moment de la sixième trompette. Je crois que quand on entre alors, dans la dernière semaine, l'Église doit vivre un abandon divin pour être directement nourri par Dieu. Et c'est ce qui nous est montré dans ces chapitres 10 et 11. Et alors, dans les bonnes Bibles, on met intermède. Hein, il y a horreur de ça. C'est pas ça du tout. Hein. C'est plus les luttes sont fortes, plus la grâce surabonde. On devrait mettre surabondance de la grâce. C'est pas un intermède. Venez. Regardez, c'est comme dans le théâtre. Il y a un intermède. Oh, c'est pas du théâtre. C'est la réalité qu'on vit. Et pour nous, cette sixième trompette, c'est terriblement éclairant. On voit ça. On les voit à tous les niveaux. Au niveau intellectuel. Au niveau artistique. Au niveau économique, au niveau familial, au niveau personnel. Alors, je lis ce passage si grand, cette surabondance de la grâce, et je vis un autre ange vigoureux qui descendait du ciel, enveloppé d'une avec l'arc-en-ciel sur la tête, et sa face était comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Il avait dans sa main un petit livre ouvert. Vous voyez, c'est le Christ. Ce n'est plus le grand prêtre, ce n'est plus l'agneau. C'est celui qui est envoyé par le Père, enveloppé d'une nuée, c'est l'Esprit Saint, avec l'arc-en-ciel, donc celui qui donne la paix intérieure, et sa face comme le soleil, et ses jambes comme des colonnes de feu. Voyez, c'est ça, je crois que c'est la prière de Marie, qui envoie son Fils. C'est tellement grave. Ces pauvres petits devant tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? On a besoin d'une grâce exceptionnelle pour vivre notre vie chrétienne dans le monde d'aujourd'hui. On a besoin d'une grâce exceptionnelle et elle est donnée. Alors, elle nous est montrée ici d'une manière étonnante. Et il posa son pied droit sur la mer et le gauche sur la terre. Il cria d'une voix forte, comme un lion qui rugit, le lion de Judas. Et lorsqu'il eut crié, les sept tonnerres firent parler leur voix, l'Esprit Saint. Et lorsque les sept tonnerres eurent parlé, j'étais sur le point d'écrire. Pauvre Jean. Et j'entendis une voix venant du ciel qui disait, Celle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écrit pas. Ah, c'est bien dommage. Hein. Mais c'est merveilleux. C'est le silence de la foi. Le silence de l'amour. Voilà ce qui est demandé. Et l'ange que j'avais vu debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit pour les éternités d'éternité, qui a créé le ciel et ce qui se trouve, et la terre et ce qui se trouve, et la mer et ce qui se trouve, qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour où se ferait entendre le septième ange, lorsqu'il viendra à sonner de la trompette, alors s'achèverait le mystère de Dieu, comme il en a fait l'annonce à ses esclaves, les prophètes. Donc toutes les prophéties s'achèvent. Et c'est vraiment la dernière semaine de l'Église. Et la voix que j'avais entendue du ciel parlez avec moi de nouveau et disait « Va, prends le livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur le ciel. » Ça, c'est le dialogue de Jean avec Jésus. Et je m'en allais vers l'ange, lui disant de me donner le petit livre. Il me dit « Prends et dévore-le. » Il remplira ton ventre d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. Et je pris le petit livre de la main de l'ange, et je le dévorai. Et dans ma bouche, comme miel, il était doux. Mais lorsqu'il l'eut mangé, mon ventre fut rempli d'amertume. Et on me dit, il te faut de nouveau prophétiser sur les des peuples, des nations, des langues et des rois en grand nombre. Et le mystère de ce petit livre, donné pour le sixième, la sixième trompette. Alors, pour bien comprendre ce petit livre, il faut voir son fruit. Il me fut donné un roseau semblable à un bâton, en disant « Lève-toi et mesure le sanctuaire de Dieu et l'autel et ceux qui s'y prosternent et le parvis extérieur du sanctuaire. Laisse-le en dehors et ne le mesure pas. Parce qu'il a été donné aux nations, elles fouleront la ville sainte, pendant 42 mois. Et je donnerai à mes deux témoins, 160, à mes deux témoins de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Et ce sont les deux oliviers et les deux lampadaires dressés devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Si quelqu'un voulait leur nuire, c'est ainsi qu'il faut qu'ils soient tués. Ceux-là ont le pouvoir de fermer le ciel pour qu'il ne tombe pas de pluie durant les jours de leur prophétie. Et son pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pouvoir de frapper la terre de toutes plaies autant de fois qu'ils le voudront. Et lorsqu'ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera, et leurs cadavres et sur la place de la grande ville qui est appelé allégoriquement Sodome et Égypte. Et le symbolique de Sodome, c'est la jouissance. jouissance charnelle. On englue l'homme. Et l'efficacité, on lui fait perdre la tête. C'est le cœur et la tête. Sodome et l'Égypte, et ça c'est symbolique. La même où leur Seigneur a été crucifié. Un retour à Jérusalem, symboliquement, au milieu de ces deux grandes luttes, Sodome et l'Égypte, et des hommes d'entre les peuples et tribus et langues et nations regardent leurs cadavres pendant 3 jours et nuits. Et leurs cadavres, ils ne les laissent pas mettre dans une tombe. Et ceux qui habitent sur la terre se réjouissent à cause d'eux et exultent leur magnificat. Ils s'enverront des présents les uns aux autres, car ces deux prophètes ont torturé ceux qui habitent sur la terre. Et après ces 3 jours et demi, un souffle de vie venant de Dieu entra en eux. Ils se tinrent sur leurs pieds, et une grande peur tomba sur ceux qui les contemplaient. Ils entendirent, venant du ciel, une voix forte qui disait « Montez ici !» Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les contemplèrent. Et à cette heure-là, il y eut une grande secousse, et le 10e de la ville tomba, et dans la secousse furent tués 7 milliers de personnes, et les autres furent saisis de peur. Ils rendirent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur s'en est allé. Voici que le troisième malheur vient bientôt. Vous voyez, cette grâce de Dieu, le petit livre, comme fruit les deux témoins. Nous essaierons de donner un peu d'intelligibilité à ce passage qui est d'une grandeur et d'une puissance. Au milieu de cette agitation, le prince de l'agitation, c'est le démon. Au milieu de cette agitation sans fin, sans détermination, il faut bouger pour bouger. Il faut changer pour changer. Ça fait la devise de certains. Tout change. Pas de taille. Tout change. Il n'y a plus rien de stable. Même la foi, même l'espérance, même la charité, tout change. Ça, c'est vraiment le grand slogan du démon. Parce qu'il n'a plus rien de stable en lui. Il a perdu sa contemplation, alors qu'il était naturellement un contemplatif. C'est pour ça qu'il préfère habiter les petits cochons que de rester seul. C'est illustré admirablement par cet évangile. Le démon supplie Dieu d'habiter dans les petits cochons. Lui, un ange qui a de la haine pour la terre. C'est extraordinaire, ça. Tellement il est agité. Tellement il s'agite. Et au milieu de tout ça, la visite du Christ pour son Église. Et le don du petit livre. Et le don des témoins. Témoins qui sont préservés et qui cependant